Bonjour et bienvenue sur Nino Domani a Palermo, c'est l'écoute de Simone. On revient aujourd'hui aussi sur Anna-Maria Ortez et plus précisément sur les Bregonan, Élisée, tout dernièrement dans la dernière émission La mer n'est pas impénétrable. Donc on a analysé différents récits, on a vu comme Anna-Maria Ortez, elle a dans cet livre qui est vraiment hyper réalistique, elle voit Naples comme un ciné doc de la réalité tout entière. C'est une vision authentique, une vision qui ne veut pas flatter Naples comme le fait la musique néo-mélodique du côté populaire ou le philosophe Benedetto Croce. C'est une vision qui se rapproche du verisme, qui ha l'ideal de l'huître, qui dit che se le pauvre se détache du rocher che le sont attaché, ils vont mourir inévitablement. E c'est une vision qu'on a analysée dans différents récits, les récits d'Ampère de Lunette où Eugenia, en mettant les lunettes, se rend compte comme la réalité l'écrase avec son poids énorme et sa misère. Et la misère qu'on retrouve dans les granits, où il y a dans ces grands HLM des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, des handicapés, des malades. La misère qu'on retrouve dans Oro a Forcella, qui est un quartier populaire de Naples, au centre-ville, Forcella, où on a vu qu'il y a les gens qui sont vraiment dans des conditions terribles. On voit la description, par exemple, d'une petite fille de 10 ans qui elle est malade, elle vit dans une cagette qui contenait les bouteilles de Coca-Cola, elle est rachitique, elle est malade, cette misère humaine, vraiment, dans la pourriture, on va dire tout ça. Après, il y a un'altra storia, che è l'histoire d'Anastasia, che on retrouve dans l'intérieur familial, qui est une femme, cette fois-là, riche, mais qui renonce à sa femminilité, qui renonce à son être femme, à son illusion d'amour. Et voilà, pour ce qui concerne l'émission précédente, un peu Groligne. Et il y a aussi et surtout le récit, le silence della raison, dans lequel il critique Vasco Pratolini, qui est un grand intellectuel italien, mais qui décrit bien la folorance populaire des vie del corno, ma qui n'arrive pas à saisir l'énormité de Naples, qui est païen dans son esprit et chrétien dans ses blessures. Ma il critique en generale tutta la neo-intelligenza napolitaine, che sono les intellectuels napolitains qui travaillent dans des journaux, son collègue Anna-Maria Ortez, qui travaille pour la Revue Sud, pour Il Mattino, La Voce, L'Unità. Donc on parle de la gauche du Parti communiste post-fasciste. Cette neo-intelligenza, pour ces critiques-là, Anna-Maria Ortez, elle sera obligée, contrainte à quitter Naples, parce qu'elle ne pourra plus travailler avec elle. Pourquoi elle les critique? Parce qu'elles sont intelligentes, elle n'est pas reconnue, parce qu'elle, en tant que femme, dans une Italie post-fasciste, dans une Italie machiste. Donc, en réalité, on verra comment, au cours des années, Anna-Maria Ortez sera reconnue comme une des plus grandes intellectuelles italiennes du XXe siècle, chose qui n'appartient pas à cet autre intellectuel qui elle critique. Et on va reprendre notre discours sur Anna-Maria Ortez e il mare non bagna Napoli avec le tout dernier récit, che è vraiment un récit de trois pages, che s'appelle Le giacchette grigie di Monte di Dio, Le petites vestes grises de Monte di Dio, qui è ajouté dans la deuxième édition publiée par Adelphi, cette maison d'édition qui a republié les œuvres d'Anna-Maria Ortez, dans laquelle elle explique pourquoi Anna-Maria Ortez a quitté Naples par rapport à ses critiques, à ses intellectuels qu'elle fait dans Le silence de la raison. Et il y a dans cette Se senti le tue là sono apostrofè le giacchette grigie di Monte di Dio, se vedi le colle blanc, le giacchette grigie, se le petite veste grise de Monte di Dio, se un quartier. Donc, il y a cette réflexion très intéressante qu'elle fait sur les réels et sur Naples en général, qui caractérise l'hyperréalisme amer du maire de Bagne pas Naples. On traduit, enfin, l'idée naît ici, dans il mare non bagna Napoli, la merda bagna Napoli, l'intollerabilité du réel, idée sur laquelle je m'étais jamais arrêté avant, m'a rendu enfin plus compréhensible mon irritation à raconter les hommes et les choses. Je crains de n'avoir jamais vu Naples, ni la réalité en général. Je crains de n'avoir pas vraiment connu l'Italie, ni avant ni après la guerre. Ce qui m'a permis d'approcher l'une et l'autre, donc Naples et l'Italie, et d'en parler dans quelques livres. Ce sont les émotions, et aussi les sons et les lumières, les mêmes sentiments d'effroi et de néant qui procédaient de cette réalité. En somme, je n'aime pas le réel. Il m'était bien qu'on fût pas très conscient, pardon, comme je le suis peut-être pas encore maintenant, presque un torrelabre. D'où venait cette intollérabilité? Je ne suis pas encore en mesure de le dire, ou je devrais interroger la métaphysique. Mais c'est sur le CNA des connaissances du réel que dans les années 1930, j'ai écrit mes premiers récits, et après la guerre, les autres. Dans les premières, il y avait donc la lumière des sons, des émotions et en arrière-plan l'angoisse de l'inconscient par horreur et grâce. Edgar Allan Poe, dont j'avais rencontré pour la première fois les pages exotériques. Dans le deuxième livre de récits, donc elle parlait des livres de récits, en revanche, la réalité anormale de Naples à cette époque était présente. Mais pour dire les choses comme elles étaient, ce n'était pas ma réalité, je n'avais pas cherché moi-même cette réalité. Pardon. Donc on voit come dans le giacchette grigie di Monte di Dio, dans ces derniers petits récits, qui veut justifier toute l'œuvre et sa fuite de Naples, elle dit qu'elle n'aime pas le réel parce qu'il lui est intollérable. Elle peut affronter le réel que grâce aux émotions, aux sons, aux lumières. Elle fait toute une réflexion sur la nature et le peuple est le seul qui peut saisir la nature, opposé à la bourgeoisie qui a un procédé d'approche réelle à travers la raison. Donc, malgré cette approche envers le réel et la nature, la réalité procède d'un sentiment froid e de néant. Son intollérabilité du réel è inesplicabile. Donc, pour comprendre d'où elle vient cette intollérabilité, elle a l'exigence d'interroger la métaphysique. C'est pour ça qu'elle a besoin de métaphysique. Et c'est pour ça qu'elle sollecitait par Massimo Bontempelli, che è un ami, on dit aussi un amante, et un amante, Anna Maria Ortez, on ne sait pas si è vrai. Et elle est maximum exponent italien du réalisme magique, sollicité par Massimo Bontempelli par cette volonté d'interroger la métaphysique des fuites du réel. Elle publiera sa première correction des récits qui est Angelici Dolori. Ces récits ont un style qui s'approche de l'onirique d'Edgar Allan Poe. Donc, è aussi bien du réalisme magique. Après, l'éloignement du réel a également eu une concrétisation dans la vie de l'autrice, parce qu'Anna Maria Ortese a eu des problèmes psychiques à un moment. En revanche, elle a néanmoins cet éloignement du réel, ce besoin de métaphysique, elle a la nécessité de dénoncer et de décrire les réels. avec sa cruauté. Donc, cela la poussera à écrire La mer ne baigne pas Naples. Et cela la poussera à écrire aussi, déjà le titre La mer ne baigne pas Naples, on dirait que c'est un titre surréaliste, parce que la mer baigne Naples, mais la beauté de la mer n'arrive pas à Naples. La mer ne baigne pas Naples, c'est du surréel pour décrire l'hyperréalité de la pauvreté, de la misère de cette ville, la misère qui n'est pas baignée par sa propre mère. Donc il y a un sentiment de ressentiment envers Naples, mais en même temps il y a toujours et aussi un sentiment d'amour che mi fa pensare a Catullo o all'amour catullien. Odi et amo, quare id faciam fortasse requiris, nescio sed fieri sensio et excursior. Ça veut dire j'ai et j'aime. Pourquoi je le fasse, je le fais, tu le demandes peut-être, je ne sais pas, mais je ne sens que cela et je ne suis tourmenté. Donc, on voit comme dans la collection des récits, dans cet amour qu'elle a, amour et haine qu'elle a pour Naples, on voit dalla collection des récits qu'elle cite avant, la deuxième collection des récits, L'infanta sepolta, L'enfant en séveillé, Naples devient un hyperbolisme, devient comme une métaphore de la réalité hyperbolique. Naples est toute la réalité entière. Cette réalité, elle l'aime et elle la déteste. Elle l'aime et la est. Et c'est une réalité anarchiste, mais pas anarchiste politiquement, anarchiste parce que c'est comme s'il y a une symphonie d'instruments qui désobéissent alla baguette du maître. Et donc, tout ça suscite un effet d'une merveilleuse confusion. C'est ça l'anarchie qu'on retrouve à Naples, qui, dans un certain sens, on retrouve aussi à Marseille. À propos de cet amour et de cette haine que Anna Maria Ortese a pour Naples, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Un grand amour, un amore grande, dans lequel il y a un petit, comment dire, extraction d'un film où è Marcello Mastroianni a parler. La chanson, par contre, c'est de Peppino Gagliardi. On écoute Un amore grande de Peppino Gagliardi.
Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia,
un amore grande, grande come il mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande. Grande più del mondo. Cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato, come all'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.
Voilà, on voit comment dans cette chanson magnifique il y a cette dichotomie, cet amour grand qui n'existe plus. C'est un peu Catullo, odi et t'amo, ma lesbia. Je t'aime et je t'aime, ma lesbia. Donc c'est l'amour qui est Anna Maria Ortez, un amour contrasté, pour cette ville qui lui appartient mais qu'elle est obligée à quitter et qui ne lui appartiendra plus mais qu'elle portera toujours dans son cœur d'exil, exilé partout dans toutes les villes d'Italie, et reviendra que 40 ans après dans sa bien-aimée ville. Et il faut dire que en revenant à cette métaphore hyperbolique de la réalité, donc cette exigence vériste de l'ensation du réel avec un goût de la métaphysique, de l'orinique, de l'hyperréalisme, du réalisme magique, on voit comme Anna Maria Ortez dans son œuvre embrasse tous les genres littéraires. Il dira Luperini, che è un gran critique d'art dalla scrittura e l'interpretazione, l'écriture e l'interprétation, Anna Maria Ortez passe du réalisme magique de Bontempelli, de ses premiers récits, à l'invention fantastique de type surréaliste, à l'argumentation de ses essais, un passe à corpo céleste, à la documentation néo-réaliste dans les romans de la préguerre, Il mare non bagna Napoli, jusqu'à la polémique morale de ses dernières œuvres, Corpo céleste aussi. Donc, vediamo come, nous on voit comment, dans toute cette explicitation de style différent, Anna Maria Ortez s'éloigne et se rapproche de la réalité et de cette Naples dans le cas de la mer ne baigne pas Naples. Ce style éclectique appartient aussi à la réalisatrice qu'on va comparer, parce que le but de cette émission, c'est la comparaison entre Anna Maria Ortez et Alice Rohrbacher. Cette réalisatrice a aussi un style éclectique qui va de documentaire au film collectif, donc les œuvres de non-fiction, au style aussi réaliste qui s'approche au néo-réalisme de ses premiers deux premiers films de fiction, Corpo céleste et Les Merveilles, Corpo céleste et Les Meraviglie, jusqu'au réalisme magique de Lazzaro, Felice, Re comme Lazzaro, qui aboutisse enfin au symbolisme de la chimère. On voit quelles sont les analogies et les différences entre la mer de Magne Panample et l'œuvre d'Alice Rohrbacher. Alors, tout comme la marquise Nicoletta Braschi du film Lazzaro Felice, Re comme Lazzaro,
Elle lit des passages évangéliques ses servantes, les filles de ses métayers. Comme ça, dans la marquise d'Avance, dans un paillot d'occhiali, elle fait lire des passages évangéliques à ses servantes aussi, filles de ses locataires. Elle, tous les deux, ont un concept totalement... un héritage totalement déformé de la religion, c'est l'uperbénisme de la religion, comment dire, bigote, de la religion tordue, et surtout dans les concepts de providence. Tous les deux ont ce concept de providence qui s'éloigne énormément de ce qu'on voyait de l'enseignement du Christ, qu'il disait, je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau... il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Ou encore, dans l'évocation à la béatitude, toujours dans l'évangile selon Matthieu, Jésus dira: errez les pauvres esprits, car le royaume des cieux les appartient. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les doux, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront ressaisis. Errez les miséricordiaux, car ils trouveront miséricorde. Errez les cœurs purs, car ils verront Dieu. Errez les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Errez ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux les appartient. Errez, êtes-vous jusqu'à qu'on vous insultera, jusqu'à qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Ça, c'est la vision qu'a Anna Maria Orthese. Ça, c'est la vision qu'a envers les pauvres Anna Maria Orthese, Alice Rohrbacher. C'est pas du tout la vision qui a envers les pauvres qui passera au royaume des ciel et les riches qui ne passera pas, parce que c'est plus facile pour un chameau que pour un riche. C'est les pauvres d'esprit, les simples, les persécutés, ceux qui subissent la justice. Ça, c'est la vision réelle d'Alice Rohrbacher qui a. Et Gerard Wacker et de Anna Maria Orthese, mais ce n'est pas la vision des marquises qui sont en contraste avec cette vision. Donc, les deux réalisatrices et autrices et écrivaines mettent en contraste leur propre vision avec la vision tordue de la religion exprimée par cette noble, tous les deux qui sont des marquises. On voit aussi dans le discours qu'il fait sulla providence, quand la marchese dirà a son fils Tancredi, Nicoletta Braschi dal Lazzaro del Re dirà a son fils Tancredi, chi le metayer qui vi en connaissant pas le monasterie sont en réalité re de vivre con ça parce qu'il connaît pas le mal du monde, c'est comme si Dieu le béni le protège du monde. Le même discours sulla providence farà da San Pere le Lunette la marchese d'Avance en parlant a Don Peppino, le père de Eugenia, la protagoniste. Aujourd'hui, cher Don Peppino, le Seigneur, c'est vous qui n'avez pas de soucis. Remerciez la providence qui vous a mis dans cette condition, qui a voulu vous sauver. Donc, vraiment, c'est l'optique, on va dire, contre laquelle Karl Marx disait la religion est l'opium des peuples, parce que la vision de la providence comme quelque chose qui ne te permet pas d'avancer, comme quelque chose qui ne te permet pas d'aller au-delà de ta misère pour lutter, pour avoir de la force, pour avoir un amélioramento sociale, l'ideal de l'huître, si tu t'alloignes de la misère, tu vas mourir. C'est ça. Le message qui est porté par la marchese d'Avance, c'est ça le message qui è porté par Nicoletta Braschi, la marchese du film Lazzaro, Re con Lazzaro. Donc, il faut dire che d'un côté il y a Alice Rohrbacher qui ha un foi intelligente et sincère, e il croit dans l'humanisme chrétien. Dans l'autre côté, il y a Anna Maria Ortez qui a une désillusion envers la vie. Elle ne croit pas dans cet humanisme. Elle a une amertume envers Christ même. Au moins, dans les mois, la mer ne baigne pas Naples. On voit, par esempio, come da interno familiare, un residuo di quello non ha parlato già, da interno familiare, on voit come il décrit la crèche che Anastasia e sa famiglia fait pour Noël, il décrit le personnage di Gesù, l'enfant, dans cette crèche. C'est vraiment. Il est dépourvu de toute sacralité, ce Gesù-là. Il est un Gesù, un personnage de la crèche, une statuette. Saint Joseph et la Vierge avaient les visages et les mains d'un rose vif et courbe sous la mangeoire. Semblait faire des grimaces laides, proprio Jean Kimmer. L'enfant, de taille très supérieure à celle des parents, aussi pour une intention symbolique, était lisse et pâle et dormait avec une jambe sur l'autre, comme un homme. Son visage n'exprimait rien, sinon un sourire apathique. Comme il disait, c'est le monde, pour dire c'est la vie. Ou quelque chose de similaire. Une minuscule lampe électrique illuminait cette petite table où tout, des chairs de l'enfant au museau des animaux, exprimait la passivité et une dure langueur. Donc, avec cette désillusion qu'Anna Maria Ortez a, même par rapport au Christ, on écoute une des plus belles chansons, selon moi, de Franco Battiato, qui est Magic Shop, qui est la chanson vraiment qui correspond à la désillusion. On l'écoute.
C'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo Amanda Lear. Vuoi vedere che l'età dell'oro era appena l'ombra di Wall Street? La falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi. Cresce più mestieri nuovi, gli artisti pop, i manifesti ai muri, i mantra e gli arehare a mille lire, l'esoterismo di René Guénon, una signora vende corpi astrali. I Buddha vanno sopra i comodini, deduco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier.
E bien, va come même Battiato di J'ai déduit d'une phrase de l'Évangile qui se met en peintre en bâtiment que Le Corbusier. Comme disait Jésus, c'est plus facile qu'un pauvre va au royaume, qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'un riche va au royaume du ciel. Et pour décrire cette. Crash, cet groupe familier dans un intérieur, on pense au peintre espagnol, grand peintre espagnol Francisco Goya, dans la famille de Charles IV, dans lequel il décrit, il ridiculise cette famille royale. Le roi il luxe, il est gros, il est surpoids. On voit donc comme il verre, il colisait cette famille royale, si comme Anna Maria Ortese ridiculise la famille sacrée de la crèche. Encore une fois, par rapport à l'enfant Jésus, on voit comme dans l'infanta, pardon, le meninas sont les demoiselles d'honneur, che è un peinture di Diego Velázquez, un altro grande spagnolo. Diego Velázquez, dalle meninas, me au centre de la scène, l'infanta, che è la figlia, un fan del sovrano spagnolo, dunque, come un pesce su, au centre de la scène, déproportionné par rapport à ses parents, tellement il est important dans la crèche. Velázquez, dall'infanta, esalta l'egocentrismo di cette infanta. E l'entour de servante che sono per sé, prête a satisfaire tous ses caprices, tous ses besoins. Donc, le titre oxymorique, la meninas, les demoiselles d'honneur. Donc, en revenant à la vision du Christ, comme nous verrons dans corpo céleste, corps céleste, pour Alice Rohrwacher, corpo céleste, Christ est fils de Dieu, oui, mais surtout fils de l'homme. Parce que Christ, quand il sera dans la croix crucifié, il aura des doutes même sur son propre père. Il a les doutes qui sont typiques à l'homme, à l'humanité. Les doutes fait l'homme. Et dira, en régnant son père, en aramanien, Eli, Eli, lama sabachthami, qui ça veut dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? On voit cette fragilité et humanité du Christ. Et on voit aussi l'approche qu'il y a vers toutes les créatures, une approche franciscaine qui a, qui a et Anna Maria Ortese et Alice Rohrwacher. Anna Maria Ortese, a propos de cet approche franciscaine, dirà che tous les créatures, surtout les plus démunies, surtout les plus fragiles, comme un enfant, comme un brin d'air, comme un petit oiseau, comme la planète entière, la Terre, il doit être conçu, il doit être élevé, la planète, au rang des créatures de Dieu, donc au rang des corps célestes. Elle sort de la vision galiléenne de la Terre comme planète qui tourne autour du Soleil. Elle reprend la vision aristotélicienne des corps célestes, la sacralité de la planète, sacré parce que créature elle aussi. Donc dans ça elle se rapproche beaucoup Anna Maria Ortese et Alice Rohrwacher, parce que la foi dans les créatures, se, faut se battre pour défendre les créatures, surtout les plus démunis, faut, même les minéraux, même la planète, il faut l'élever au rang des créatures. Dans ça elle s'approche beaucoup Anna Maria Ortese, Alice Rohrwacher décrira même, c'est une vision typiquement franciscaine, elle parlera en voix off de l'histoire de Saint François, elle la compare à Lazzaro, qui comme Saint François, comme Christ, est un homme bon et un saint, tellement bon qu'è incapable de voir le mal, qu'è incapable de faire du mal. L'élu même, comme dans l'histoire de Saint François, l'élu c'est non seulement le sauveur de Lazzaro, come son anonyme biblique, il est ressuscité par grâce au loup. Mais il est aussi l'alter ego de Lazzaro. Le loup rappresente toujours dans la vie agricole, ancestrale, c'était l'incarnation du mal pour les paysans du Moyen-Âge, comme pour les métayers de l'Inviolata di Alice Rohrwacher. Mais le loup, en tant que créature, est un fils de Dieu comme les autres. Donc, même l'élu est une créature, et dans ça, sont très proches. La différence, c'est laquelle entre Alice Rohrwacher et Anna Maria Ortese? La différence, c'est que elle, plutôt que parler de Dieu et d'homme, elle parle, oui, elle parle d'homme, mais elle parle surtout D'homme è natura, e la natura è entendu au sens laïque. Anna Maria Ortese voit Dieu come la natura, au sens laïque, che è a natura malheureusement meratre, come vorrei dire Leopardi, perché en tant que natura elle n'a pas intéressé a sauvegarder l'homme, elle n'a pas cette bonté, elle ne croit pas à la bonté aveugle de Dieu. Elle est plus raisonnable, elle est plus... elle est moins cattoliche, le mondo ha la visione cattolica par rapport a Richard Rohrbacher. La nature è nature, elle existe au-delà de l'homme. E il n'a pas cette bonté qui on doit, come dire, dicotomicamente donner à Dieu. Il n'y a pas cette dichotomie entre bien et mal, comme on voit dans la religion Rohrbacher, comme on voit dans la religion catholique. La nature est nature, est au-delà du bien et du mal. Elle parle de la vision qu'a la bourgeoisie et de la vision qu'a le peuple de la nature. Enfin, la bourgeoisie portait aussi des poids, et c'était l'impossibilité de croire que l'homme était autre chose que la nature. Elle devait accepter la nature dans tout son entendu. C'était l'ancienne habitude de respecter les ordonnancements de la nature, accepter d'elle les illuminations comme l'erreur. Là où le peuple éclatait de temps en temps la révolte, et des murs hauts de la prison sortaient des blasphémies et des bruits de plaire. Ici, la raison s'étaisait dans un silence absolu, craignait de rompre avec une observation même minime l'équilibre sur lequel la bourgeoisie se tenait, et de voir ses jours se dissoudre au soleil, comme jamais existait. La peur, un peur plus fort que tous les sentiments, liait tout et empêchait de proclamer quelques vérités simples, quelques droits de l'homme, et même de prononcer dans son vrai sens le mot « homme ». Donc la bourgeoisie, là, elle a une vision marxiste, pas catholique, de la nature. Ducre, la bourgeoisie raison par la raison, voit la vie, la réelle, à travers la raison. Le peuple la voit à travers l'instant. Et donc, le peuple est plus proche de la nature que la bourgeoisie, parce que la nature ne raisonne pas par la raison, mais par les émotions, comme le peuple. Par contre, la bourgeoisie et le peuple ils ont un même peur. La peur est plus forte que tout sentiment, liant tous et empêchant de proclamer quelques vérités simples, quelques droits de l'homme, et même de prononcer son vrai sens, dans son vrai sens, le mot « homme ». Donc, on voit que la nature est au-delà du bien et du mal, pour Anna Maria Ortese. C'est pas le bon Dieu d'Alice Rohrbacher. Elle n'a pas la vision christique d'Alice Rohrbacher. On conclut avec la préface à l'œuvre de Petit Page, la préface à La mère de Bagnenapli, qui est toujours dans l'édition Adelphi, qui est donc posthume à la première publication. La première publication, c'est 1953. L'édition Adelphi, c'est 1994. Dans cette préface, elle dira qu'à cause de ses livres, il mare, l'appelle il mare come spesamento, il mare come depesement, c'était vu comme un livre contre Naples, Et ce livre contre Naples l'a éloigné de sa propre ville pendant 40 ans. Donc, déjà pour commencer, elle fait une réflexion sur l'écriture. Parce que, comme soutient l'autrice, l'écriture de ces livres a quelque chose d'exalté, de fébrile, tant vers le temps dans l'halluciné, et presque à chaque point de la page présente quelque chose de trop. Les signes d'une authentique névrose y sont évidents. Donc l'origine de cette névrose est celle propre à Anna Maria Ortese. El n'avait qu'un nom métaphysique, comme on a déjà vu. Le besoin de s'éloigner de la réalité, qui est incompréhensible et hallucinante, cette réalité. Elle continue, elle dit, l'expérience personnelle de la guerre, les terreurs partout, la fuite pendant 4 ans avait porté à son comble mon irritation contre les réels. Et le dépaysement dont je souffrais était désormais si vrai et même plus paisible. Donc elle vit cette Naples dans un, comme une condition universelle. Ma l'auteur, l'autrice, n'est pas d'accord avec l'acceptation implicite de ce mal, parce que Naples accepte son mal. C'est ça la vraie plaie de Naples. La vraie plaie de Naples. Les Napolitains, comme tous les Sud-Italiens, sont résignés au mal. Il n'y a pas l'effort de les surmonter. C'est ça la raison pour laquelle la mer ne baigne pas Naples. Et c'est cette infinie cité du vivre, et bien c'était ce vivre, cette subsistance obscure qu'elle mettait en cause. Donc, se réfugier dans la métaphysique, dans ses ressentiments vers le réel, est aussi un'exigence de dénonciation de l'absurdité et de la cruauté du réel. Après, elle fait une réflexion a Maria Ortese entre Naples et sa ville. Elle dit Naples était une ville immense. Elle jouissait aussi des racines infinies. Moi, en revanche, j'ai manqué des racines. Oui, j'étais sur le point de perdre le dernier. Et j'ai attribué à la belle ville ces dépaysements qui étaient surtout les miens. Cette horreur que j'ai attribuée fut ma faiblesse. Donc, dans ces livres, elle pense que Naples, qu'elle décrit dans ses livres, elle est déracinée. En réalité, c'est l'être déracinée. On le voit de sa vie. Elle naît à Roma en 1914. Le père était un fonctionnaire. Il va dans le désert de Libye. La Libye, c'était un colonie italienne all'epoca. Il va dans différentes villes du sud della provincia italienne. Après, Anna Maria Ortese en 38 déménage dans différentes villes du centre nord d'Italie, Florence, Bontempelli, Trieste, Venise. Quand elle quittera définitivement Naples, elle va à Milan. En 75, enfin, elle va à Rapallo, un village en Ligurie, dans les Cinque Terres. Là, elle vit avec sa sœur jusqu'à sa mort en 1986. 18. Donc, du fait d'être déraciné e d'avoir attribué son dépassement à la ville qui effectivement jouissait des racines infinies, l'écrivain s'en plaint. Et là, elle s'excuse de ça. Parce que le dépassement qu'elle décrit pour Naples, c'est un dépassement qui appartient à elle. Naples a des racines. Elle se rend compte de ça. Elle se rend compte, elle dit, je comprends le désarroi dans le territoire italien commun qui on a pas dit, ni moi je savais et pouvais le dire. La mer n'était qu'un écran. La mer ne bagne Naples. Pas vraiment inventé, sur lequel se projette la douleur des paysans, la mer obscure de vivre, de la personne qui avait écrit les livres. Reste l'effet plutôt mélancolique ou seulement inhabituel, que tant la Naples offensée, est-elle vraiment offensée ou juste un peu indifférente, che la persona accusée de lui avoir inventé una atroce névrose ne soit plus rencontrée pour la suite, comme si rien ne s'était passé, et cela n'était pas, n'était et cela n'avait pas été ainsi pour moi. Avril 1994. Donc, elle signe. Elle met la date. On disait que rien s'était passé. Mais en réalité, elle a dû quitter cette Naples-là. Elle a dû finir cette relation à cause de ce dépassement. Elle a vécu son dépassement, son déracinement. Naples avait des racines très ancrées. Elle était déracinée. Elle a vécu sa vie d'exilée. Sa vie d'exilée. Elle a perdu un amour. Et je vous fais écouter la dernière chanson, qui est une chanson de Vasco Rossi, qui s'appelle La nostra relazione, Notre relation, qui est une chanson très commerciale, mais très belle. Elle est très belle parce qu'elle parle de la fin d'une relation, dans ce cas avec une femme, dans le cas d'Anna Maria Ortese, avec la femme de toutes les femmes, la plus hyperbolique et synédotique du monde, Naples, la ville reine de tous les douleurs, de tous les mâles, et de toute la beauté, de toute la joie aussi, il faut le dire, odi et t'amo, je t'aime et je t'aime. On écoute la nostra relazione.
Cosa di diverso, non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro. Ormai non ha più senso, tu hai le tue ragioni, io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
Eh bien, j'ai voulu conclure cet excursus sur il mare non bagna Napoli, la mer ne bagna pas Naples, avec ces dernières conclusions sur le fait que la mer comme dépaysement, un Naples vraiment offensé, ou elle s'en fout, comment dire? Chi ha avuto, 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 chi ha dato, andato, ha dato, scordammoci ho passato, simme Napoli paesà. Qui a eu, a eu, a eu, qui a donné, a donné, a donné, on oublie le passé, on est de Naples. Compare, compère. Voilà, j'ai voulu reporter presque à la lettre tout cette petite page qui ouvre le livre dans la deuxième édition, parce que je pense que même dans une analyse, la pensée de l'autrice est très importante, la pensée de l'auteur est très importante.
Et donc, j'ai laissé la parole à l'auteur dans toute mon analyse. À la fin, j'ai laissé la parole à l'auteur sur cette vision de Naples, sur le pourquoi et le comment elle est partie de Naples, sur le pourquoi et le comment la réalité Naples, l'amour et la haine pour Naples, Naples hyperbole de la réalité tout entière. Pourquoi je laisse la parole à l'auteur? Parce que l'auteur accouche un livre comme une mère accouche un enfant. Et les livres, comme on dit en napoletain, sont des créatures. Créature, ça veut dire enfant, mais ça veut dire aussi créature de Dieu. Donc, je vous laisse. Je vous dis à dès lundi, encore une fois, avec Nino domani à Palermo. Vous étiez à l'écoute de Simone. Et je vous laisse avec notre jingle habituel. Merci et au revoir. Merci pour votre écoute.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportiva a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo', atteggio prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che dingrindina, chi ce l'ho? Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di...